Radio G 101.5 FM.
Le manche-disque. L'émission qui tourne,
qui tourne, qui tourne, qui tourne.
À 33 tours minutes.
Bonjour à tous et à toutes, c'est le manche-disque pour sa 8e émission. Julien et Nico pour vous servir nos plus belles galettes avant les fêtes avec au menu pas mal de rock, un peu de pop, de l'afro. On aura le plaisir aussi d'accueillir, comme il y a 15 jours, un auditeur, chanceux gagnant de son entrée pour le Salon du Disque de Nantes, sans oublier la traditionnelle interview de fin d'émission. Alors attachez vos ceintures, le manche-disque, l'émission du disque vinyle sur Radio G, ça démarre maintenant.
Hotel money.
Salut Julien.
Salut.
Et on a commencé très fort
bien,
avec cette émission avec un classique rock, LA Woman, morceau titre de l'album LA Woman, le dernier album des Doors en 1971, avant la mort de Jim Morrison, parce que je crois qu'après sa mort, ils ont essayé quand même. Hein. Ils ont fait deux autres albums qui ont eu beaucoup moins de succès, hein, dû au charisme de Morrison qui n'était plus. Moi, personnellement, c'est peut-être mon morceau préféré des Doors, hein, en concurrence avec When the Music's Over sur l'album Strange Days. Mais bon, voilà, je ne saurais pas choisir entre les deux, je pense. Mais en tout cas, certainement, mon morceau préféré des Doors, il se joue entre ces deux-là. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, sur le morceau et les Woman, mais si je ne devais en choisir qu'une de ces choses à dire, eh bien, je mettrai en relief le pont génial et délirant du milieu fin de morceau, dans lequel Jim Morrison clamera son fameux Mr. Mojo Rising, qui est en fait l'anagramme de Jim Morrison. Je ne sais pas si tu savais, si tu mélanges les lettres, ça fait Jim Morrison. Et un petit peu moins connu que ça, John Densmore, le batteur du groupe, il a eu l'idée dans la mesure où Mojo, en fait, c'est un mot du jargon. Nous, on le connaît aussi un peu grâce à Austin Powers,
oui,
hein,
pour ceux qui
regardent le cinéma. Mais Mojo, c'est avant Austin Powers, un mot du jargon blues pour décrire en fait la sexualité, le sex appeal, etc. Et donc, John Densmore, ça lui donne envie de ralentir en fait le rythme de la batterie et de le monter progressivement, un petit peu comme un orgasme. Voilà pour la petite histoire de ce pont génial. Il y a 15 jours, on a accueilli un auditeur heureux gagnant des places, enfin des invitations pour le salon du disque de Nantes. Et on a le plaisir cette semaine d'accueillir Ludovic. Ludovic, comment vas-tu ?
Eh bien, très bien, merci.
Eh ben, merci à toi de nous appeler à une heure aussi tardive.
Oui, merci beaucoup.
Puisque donc, je le disais, tu es donc un des gagnants qui a eu l'occasion d'aller donc le 7 décembre dernier au salon du disque de Nantes, international du disque de Nantes, il ne faut pas oublier de le dire.
Tout à fait, international. Et d'abord, merci pour les places, c'était super, super sympa.
Merci à toi d'avoir participé.
J'ai pu retrouver tous mes membres de Facebook, de Vinyl Cult Collection et de Vinyl Room. Il y avait énormément de monde et les packs étaient mélangés avec beaucoup d'OG et beaucoup de rééditions. Les prix étaient relativement élevés quand même, mais il y avait quand même des grosses pépites.
Ouais, mais alors pour nos auditeurs qui connaissent peut-être un petit peu moins le monde du vinyle et notamment des réseaux sociaux, les noms que tu as dit au début, ce sont les noms des pages Facebook dédiées aux passionnés du vinyle. Effectivement, Julien et moi aussi, on est aussi inscrits sur ces pages-là, donc c'est sûr que c'est des lieux de rencontre et de partage de passion. Et là, l'occasion s'est présentée donc avec ce salon de les rencontrer ou de les revoir certainement pour
revoir
toi,
tout
en
à
vrai.
Fait, ouais. Tout à fait, en vrai, physiquement, on est une petite bande de 20 bons collectionneurs de vinyle, de tout horizon et de tout style.
Ah bah c'est ça qui est bien aussi avec cette passion du vinyle, c'est que ça relie les gens. Et donc, tu nous disais que tu avais fait des belles trouvailles alors ?
Alors oui, tout à fait, ouais, j'ai acheté quelques OG et surtout j'ai complété ma collection de Vitalik. J'ai pu trouver donc l'Imponet EP en édition d'origine. C'était produit sur le label DGL. J'ai trouvé également dessus il y a La Rock qui est un titre qui a été repris par plein de compilations et puis un vieux Vitalik sous le label de Dima qui est un de ses pseudos, Ulster Pornstar aussi, un autre de ses pseudos qui est sur ce même vinyle, et surtout le Revenge de 2012,
D'accord.
Où figure le titre que j'adore, La Mort sur le Dancefloor.
Voilà, et donc c'est le morceau que t'as choisi de nous faire
Exactement,
découvrir.
Exactement, tout simplement parce que ce titre a une vraie histoire. C'est la première collaboration de Vitalik avec Rebecca Warrior du groupe Sexy Sushi et Mansfield Tia. Et en 2019, ils créent ensemble le groupe Compromat, dont le dernier vinyle est sorti en 2019.
Ouais, et qui sont passés à Angers d'ailleurs, parce que il y a pas longtemps.
Oui. Exactement, c'est une électro un peu plus sombre berlinoise avec des sons mêlant des chants à la Nina Hagen et à Adèle Haenel en français. C'est très différent de ce qu'il produit, mais c'est vraiment très très sympa en électro.
Ah ouais, moi j'y étais pas personnellement, mais j'en entends beaucoup parler. Je crois qu'ils ont fait une forte sensation et je pense que c'est un petit peu le cas de tous les concerts qu'ils font dans leur tournée là.
Ouais, c'est Vitalik est un artiste français de musique électronique, hein, parmi les plus appréciés du renouveau de la French Touch avec Rhône. Il a plein de pseudos et c'est vrai que il a contribué avec beaucoup de musique et de DJ électronique, de Hacker, Laurent Garnier, Manuel Malin, Daft Punk, Björk, Alex Swing, on pourrait en citer. Voilà, il a fait beaucoup de remix sous différents pseudos et c'est vraiment un auteur ultra prolifique et surtout avec une électro. Déjà, il compose lui-même, ses lives, c'est jamais les mêmes titres, il recompose ses musiques directement. C'est vraiment un artiste passionnant et vraiment émouvant sur scène.
Ok, écoute, à défaut d'avoir ces émotions scéniques, ça va peut-être nous donner envie d'acheter une prochaine place de concert. On va s'écouter donc « La mort sur le dance floor ». Que tu as donc récolté au salon du disque de Nantes. On en profite pour te remercier.
Ouais, merci beaucoup.
Merci,
bien, merci
beaucoup
beaucoup
pour ce temps d'antenne et cette belle présentation.
Merci.
Merci. À bientôt.
À bientôt. Bonne nuit.
Bye bye.
Bonne nuit. Je suis heureux, je vois l'avenir dans une manière.
Radio G 101.5, le manche disque. Eh bien écoutez, après ce très bon morceau d'électro, c'est vrai que nous, jusqu'ici, nous en avions assez peu diffusé.
Bah oui, donc merci Ludovic plutôt, encore une fois, parce que ça nous permet de compléter, c'est ça qui est bien, plus on s'ouvre aux autres, plus on complète les goûts qui se voulaient quand même assez éclectiques. Mmh. Mais c'est vrai que le versant électro, toi et moi, au niveau de nos discothèques, on n'est peut-être pas très 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 bien fournis. On peut pas taper partout. Hein.
J'ai de la dark électro, moi, notamment, et mexicaine, avec Hocico, dont je suis très très fan, mais c'est beaucoup de CD. Donc beaucoup c'est vrai que pour CD, l'instant, ouais. Je ne tape pas trop dedans. On verra dans les prochaines années.
Tout à fait.
Et ça va me permettre d'enchaîner, mais alors contrairement à notre émission d'il y a 15 jours, c'est un peu moins fluide au niveau enchaînement.
On change de style, mais c'est bien aussi, tu vois, de passer d'un plaisir à l'autre comme ça.
Et là, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle FSB, donc 19 albums, plus de 3000 concerts, dont des centaines de l'autre côté du rideau de fer. FSB, groupe de rock bulgare formé en 75, bat tous les records. Non-Stop en 77 est leur premier album. Ils ont survécu à beaucoup de choses, notamment à l'effondrement de l'Empire soviétique, puisqu'ils ont eu plutôt récemment l'occasion de faire un concert pour fêter l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne. La formation a eu de très nombreux lines-up, mais il y a quand même eu tout le long de son existence qui continue encore aujourd'hui. Les deux têtes pensantes que sont Roumen Boyadziev et Konstantin Tchekov. Donc là, je vous ai choisi donc un morceau de l'album Non-Stop de 1977 qui s'appelle « 10 Years After ».
Très bel accent bulgare, Julien.
Merci.
Let's
C'était Camarou Selina Band.
Ah oui, tu nous fais voyager là, Julien. Ouais. Là, on est passé sur deux titres de la Bulgarie à, d'ailleurs...
au Kenya, un an plus tard. En fait, un an plus tard au Kenya, en 1978.
Donc, même période en plus.
Ouais. Joseph Camarou, musicien kényan de l'ethnie Kikuyu, est très engagé. Il dénonce meurtre d'État, sexisme, tabou et inégalité sociale, même s'il est régulièrement menacé de mort par des courriers anonymes et qu'il subit des pressions du gouvernement.
C'est souvent le sort réservé aux artistes engagés, malheureusement.
Oui, et surtout dans un pays comme le Kenya, qui à l'époque traverse différentes crises. Joseph Camarou, il est quand même assez courageux. Il est du genre à interpeller directement le président, en public, en plein milieu du stade national, pour lui dire à quel point il est impopulaire et qu'il impose son pouvoir par la force.
D'accord,
donc sa popularité l'a probablement sauvé plus d'une fois, l'a rendu un peu intouchable quoi. Il a vendu près d'un demi-million d'albums, il continue encore aujourd'hui à gérer un label discographique quand sa charge de ministre du culte lui en laisse le temps.
Ministre donc, du culte.
Ouais, sacré personnage.
Ouais. Multiple casquette en tout cas.
On a donc écouté un titre de 1978 qui s'appelle Mukurara Nake. Alors ça raconte l'histoire d'un homme qui découvre chez lui sa femme en plein adultère. Mais contre toute attente, il ne s'énerve pas, dit qu'il l'avait vu venir et s'en va.
D'accord.
Donc on est vraiment dans...
Je m'attendais à une autre fin possible.
Voilà.
Bon, bah, j'ai hésité peut-être un peu mal placé. Mais...
Non, mais je trouve que justement, ça dénote cette vision comme quoi, voilà, personne n'est la possession de personne et ça finit pas en meurtre. Ou,
mais je pensais pas à ça comme fin, mais bon.
Ça n'appartient, ah oui, d'accord.
Ça n'appartient qu'à moi.
Oui.
Ça, c'est mon côté 60s, tu vois.
Ouais,
rock psyché, hippie, voilà, mais bon... C'était très bien de sa part aussi de prôner le pardon et la tempérance.
Exactement.
C'est à moi ?
Oui.
Ah, ben c'est un grand moment, tu sais, Julien, parce que je vais enfin avoir le plaisir de passer un titre d'une de mes idoles partie trop tôt.
Il faut se faire plaisir, c'est bientôt Noël.
Et oui, en plus, c'est bientôt Noël. On est vraiment à un jour ou deux de Noël, là. Eh bien, cet artiste, c'est Prince, voilà. Pour ceux qui suivent l'émission et qui ont eu l'occasion d'écouter la première...
Oui, Yann.
Ça remonte un petit peu à septembre.
Il y a le podcast sur radio-g.fr.
C'est radio-g.fr.
Oui, Google vous aidera.
Voilà, sinon Google vous aide, c'est un nouveau site trop beau. Et puis sinon, sur la page Facebook de notre émission, eh bien vous pouvez, donc qui s'appelle Le Manche Disque, hein, comme l'émission, vous pouvez retrouver tous ces podcasts aussi. Voilà, et donc Yann, bah, nous avait choisi un titre issu de l'album Purple Rain, qui est le gros succès commercial de la carrière de Prince, en tout cas celui qui l'a vraiment lancé sur les rails du grand succès grand public, en 1984. Eh bien moi aussi, j'ai choisi un titre de cet album, beaucoup moins connu que When Doves Cry que Yann nous avait choisi. Il s'appelle The Beautiful Ones. Il illustre ce que moi j'adore chez Prince, c'est-à-dire cette sensibilité, cette précision qui fait que même si certaines sonorités font très 1984, hein, vous allez le voir, le morceau en termes de mélodie et en termes de composition, finalement il fait match quand même en 2019, quoi, à la veille de 2020. Vous vous rendrez compte que ce morceau, The Beautiful Ones, pour la petite actualité autour de l'artiste, c'est également, pour ceux qui suivent un petit peu tout ce qui sort autour de Prince, le titre d'un recueil d'écrits autobiographiques de Prince, donc une sorte de journal intime, hein, paru cette année, et disponible, chez tous les bons libraires. Mais pour l'heure, voici donc le morceau. Attention, grosse beauté inside. Thank you.
bring to life a vision in one's mind. The beautiful ones always smash the picture. Always, every time.
Tu me manques, Prince. Heureusement que tu as fait 39 albums et que je suis en pleine recherche de la complétude dans ma discothèque et que ça me
creepe
bien.
39 albums quand même, ouais.
Ouais, quand même. Et on ne parle pas des rushs qui ne sont pas sortis et que maintenant, ils sortent au compte-gouttes façon posthume, histoire de continuer à faire de la thune. Ouais. Enfin, ça, c'est mon avis perso, mais il y a aussi des très belles choses qui sortent, heureusement. Voilà. Mais voilà, sans parler des rééditions, voilà. C'est une très, très, très grosse banque musicale, Prince. On enchaîne avec un morceau qui n'a pas grand-chose à voir, peut-être si ce n'est quelques guitares.
Oui, éventuellement, effectivement. Donc là, je vais vous passer un morceau d'un duo, à savoir un groupe, Canada Heat, et un bluesman, Johnny Lee Hooker, sur l'album Hooker and Heat, qui date de 1971. Canada Heat, qui tire son nom d'un terme d'argot évoquant un alcool frelaté cher au bluesman parce que pas cher du tout, justement, est titre d'un standard du genre, vénère John Lee Hooker. Et en 71, ils ont l'occasion de collaborer avec leur idole sur un double LP. Ce double LP, alors, il est constitué d'un premier disque qui enchaîne les titres de John Lee Hooker, qu'il interprète seul, aidé juste sur le dernier titre par Alan Wilson. Le second disque voit par contre le groupe le rejoindre, toujours sur ses compositions. Donc là, je vous propose d'écouter un titre qui s'appelle « Whiskey and Women », avec une pensée toute particulière pour Larry the Mole Taylor, bassiste épisodique mais historique du groupe qui est mort le 19 août dernier. Laissant seul aux commandes, le Mexicain et membre fondateur et batteur Adolfo Fito de la Parra.
Bah, décidément, c'est l'émission des hommages.
Voilà.
Cette huitième émission, Whiskey and Women, tout un programme.
Whiskey and Women.
And Woman, bien sympa, bien bluesy.
Exactement.
Comme on l'aime.
Ouais.
Ben ça va être quand même une transition, hein, quand même, parce que moi je vois des liens quand même musicaux avec le morceau qui va suivre, qui va être l'occasion, une fois de plus, mon cher Julien, de nous rappeler à des souvenirs du côté du Jokers, puisqu'il s'agit du groupe The Mystery Lights. que nous avons eu le plaisir d'être allés voir quand ils sont produits aux Jokers, donc en octobre, il me semble, de cette année.
Ouais, ouais.
Ce sont donc des Américains formés depuis 2004 qui ont marqué la scène rock new-yorkaise et réalisé deux LP. Le premier éponyme en 2016 et le deuxième tout frais de cette année qui s'appelle Too Much Tension, tous deux chez Wick, la filière rock du label Daptones. Alors que dire sur Mystery Light si ce n'est qu'on adore leur son psyché rétro-moderne, c'est-à-dire qu'ils puisent dans les racines du psyché pour en faire du rock d'aujourd'hui, et ça pour un collectionneur amateur de vinyle, c'est quand même quelque chose qui a du sens. Le groupe, en effet, quand vous allez l'écouter tout à l'heure, il donne le sentiment d'avoir parfaitement assimilé les racines du rock psyché classique des 60s, 70s, pour en faire un rock donc, d'aujourd'hui. Et ça, pour un collectionneur, c'est génial. Voilà, je l'ai encore dit, le vintage,
c'est la vie,
c'est, la, vie, c'est la mémoire. C'est, voilà, je pense que c'est, je fais une analogie assez aisément avec l'objet qui nous tient tant à cœur dans cette émission, la galette noire de nos ancêtres. Le morceau s'appelle « Going Down », il est issu de leur dernier album qui s'appelle « Too Much Tension ». Donc. Ça t'a rappelé des souvenirs, mon cher Julien ?
Alors oui, 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 ça m'a rappelé le chanteur qui virevoltait, qui sautait partout sur la minuscule, très attrayante, mais minuscule scène du Jokers.
Intimiste
scène du Jokers. C'est vrai qu'on se demandait comment il faisait pour pas retomber sur ses pédales ou le clavieriste,
Se prendre un pied dans un câble et tout. Il y avait, on voyait qu'il y avait de la technique. Tu trouves pas qu'ils ont parfaitement assimilé les racines du rock psyché pour en faire du rock d'aujourd'hui ?
Ah si, 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 oui, tout à fait. Ah ouais, c'est important pour l'amateur de vinyle que nous sommes.
Ça a du sens, je pense aussi, ouais. Donc, ben, c'est l'heure de la traditionnelle interview de fin d'émission. Déjà. En ce 23 décembre, la veille des fêtes, c'est déjà l'heure pour nous de laisser la place donc, à cet invité.
On reviendra l'année prochaine,
bien sûr,
comme on a coutume de le dire.
Et oui, comme on le dit, à l'année prochaine. Et l'invité donc, d'aujourd'hui, je vais le présenter parce que ce n'est pas des moindres. C'est Johan, également connu sous le nom de Robio. et qui a de multiples casquettes, notamment il sévit beaucoup sur Angers en tant que disquaire dans une grande enseigne culturelle hein, qui commence par FNE et qui finit par HAC. On fera pas de pub. Animateur aussi à Radio G dans l'émission Funkadelica. Après Arnaud et Boogie Bass, qu'on a déjà interviewé ici. Il est aussi DJ à ses heures perdues, animateur du Def Test au Jokers, auquel j'ai coutume d'aller. Tu connais le Def Test ?
Oui, rappelle-nous le principe quand même.
Eh bien, c'est comme un blind test, sauf que comme son nom l'indique, c'est visuel, c'est-à-dire que Johan y choisit plein de détails, de pochettes d'albums connus et moins connus, tous styles confondus. Et il faut trouver, à partir de ces visuels qui sont projetés avec un vidéoprojecteur, il faut trouver le plus grand nombre d'artistes et de noms d'albums. Donc, c'est très très rigolo à faire. C'est un exercice particulier où c'est pas facile de forcément briller, mais en tout cas, c'est plutôt bon esprit là-bas, c'est bon enfant. Il y a des cadeaux pour les perdants comme pour les gagnants. Ça se finit en général en bonne rigolade. Le prochain d'ailleurs, j'en profite pour vous l'annoncer, c'est le 29 décembre, donc c'est dimanche prochain. Ce sera à 18h, donc du côté du Jokers. Johan, il a une autre casquette dont je veux parler aussi. Il est aussi dessinateur. Il tient un blog qui s'appelle La Discothèque Détournée. C'est très très rigolo. Il mélange en fait différents groupes pour en faire des groupes qui ont des noms marrants, des pochettes qui sont aussi fusionnées. Il détourne plein de pochettes mythiques et de noms de groupes mythiques aussi. C'est assez sympa. D'ailleurs, on va peut-être vous mettre un lien de ce blog sur la page Facebook Le Manche Disque. Comme ça, vous vous ferez une idée beaucoup plus nette de ce que je vous raconte là. C'est pas très radiophonique le dessin, donc vous pourrez vous y plonger avec vos yeux. Bref, voilà, on était obligé d'aller à sa rencontre, à Robio, d'autant plus qu'il est aussi grand amateur de vinyle. Et il va nous en parler. Donc c'est tout pour nous. Passez de très bonnes fêtes, chers auditeurs, en espérant pour vous plein de vinyle sous le sapin. Au revoir.
Bye bye.
Donc je suis avec un visage bien connu des acheteurs de vinyle sur Angers, puisque pour ma part, je t'ai rencontré, Johan, à la FNAC.
Exactement.
Bonjour Johan.
Bonjour.
Il se trouve que par ailleurs, j'ai appris ensuite que tu étais aussi un camarade de Radio G, puisqu'on peut t'entendre assez régulièrement aussi dans l'émission Funkadelica. Et donc, je vais te laisser te présenter plus en avant.
Eh bien, voilà, je m'appelle Johan, j'ai 42 ans. Je travaille à la FNAC depuis 2001. C'est toujours une passion qui guide des découvertes à faire tout le temps. On n'est plus que deux disquaires. Et avec mon collègue, on est assez friands de rock indé, de soul, de funk, metal plus pour moi, électro plus pour lui, le hip-hop, mais on est aussi amené à découvrir des trucs de jazz, de blues, musique du monde. Enfin, fait beaucoup de choses à découvrir, mais tant que la passion et la curiosité est là... Ça reste toujours un vrai plaisir.
Là, il se trouve que le thème de l'émission, c'est le disque vinyle, puisqu'on vit un vrai retour en fait, de ce support.
Complètement, oui.
Et comment tu t'expliques ça alors ?
J'arrive pas du tout à l'expliquer. Par contre, je me souviens, quand c'était mes premières années, le bac de vinyle commençait un petit peu à se réduire. Il restait quelques maxi d'électro, très peu de choses. Moi, dans tous les cas, j'en ai toujours acheté, enfin, même avant de travailler à la FNAC, forcément. Et c'est vrai que le milieu fin des années 90, on en trouvait beaucoup moins. En l'occurrence, moi j'adore les Foo Fighters et j'avais acheté les premiers albums en vinyle. Et certains, fin 90, on va dire qu'on ne trouvait absolument pas. Et donc, ce qui fait que quand j'ai commencé à travailler à la FNAC, je me suis rendu compte que le bac c'était de pire en pire, il n'y avait vraiment rien. Et j'ai l'impression que c'est à partir de, 2008-2009, je pense. Que bizarrement on a vu des références revenir tout doucement. J'ai même vu un jeune public acheter des vinyles. Je me souviens surtout c'était les premiers albums de MGMT et de Baby Shambles, si je me trompe pas. Ça devait être la même année, ou en tout cas un ou deux ans près, et des jeunes de 15-20 ans qui disaient que leurs parents avaient des platines, qui disaient ouais, c'est du vinyle, et j'entendais des fois les conversations entre eux. Ce qui était très, très marrant, certains voyaient les vinyles en présentation en croyant que c'était des calendriers. Donc, c'était quand même assez drôle parce que c'était un format qu'ils n'avaient pas connu, ou alors très peu. Et au fur et à mesure, moi et d'autres de mes collègues qui étaient forcément conseillers, vendeurs disques, mais aussi acheteurs, et pas qu'à la Fnac, hein, toujours les disques indépendants quand il y en avait encore. Ce qui fait qu'on a vu certaines références revenir, alors, des références récentes, des groupes récents qui sortaient leur vinyle, mais en un ou deux exemplaires, où on se chopait des rééditions en import parce que d'autre côté on cherchait aussi à acheter des trucs. Et on avait commencé à installer un tout petit rayon qui tenait, mais dans un tout petit bac. Si j'avais pu prendre une photo à l'époque, maintenant quand on voit le rayon, c'était juste hallucinant. Mais il y avait quoi ? Il y avait 10-12 disques qui se battaient dans le bac. Très peu de choses, très peu de demandes, mais on voit que la place commençait à arriver à nouveau pour le disque vinyle. C'est hallucinant. Et on a dû développer le rayon au fur et à mesure. Et même tellement on était surpris par ce succès à nouveau qui revenait sur le disque et l'intérêt qu'il y avait, on avait dû aménager des rayons qui n'étaient pas du tout faits pour les disques, pour les 33 tours du moins. On avait des bacs qui ne retenaient pas les disques, donc ils se cassaient la gueule tout le temps, parce que ça glissait, parce qu'il suffit que les gens les regardent, une pile de disques. À côté, on avait d'autres qui cognaient dedans, tout tombait à côté, enfin, c'était un carnage total, quoi. Mais on était surpris, donc on n'était pas prêt du tout à ça. C'est aussi une génération qui n'a pas connu, qui trouve ça trop stylé, qui trouve ça vintage, qui trouve ça trop cool, et qu'ils connaissent quelqu'un qui a une machine à vinyle. Donc on leur dit bien non, c'est une platine vinyle. Okay. Mais on voit qu'il y a une espèce d'intérêt pour le produit, et c'est intéressant parce qu'ils ont aussi un langage complètement différent. Donc il y a l'intérêt aussi d'un public qui est curieux de musique, qui grandit avec le MP3, qui a grandi avec le téléchargement, mais qui veut voir son disque.
Toi, à titre perso, quel est ton premier souvenir, ou un des premiers en tout cas, qui te vient quand tu penses au disque vinyle?
Mon père avait quelques disques des Creedence Clearwater Revival, Bob Marley, Renaud. Mon père était routier, donc ce qui fait que lui, il revenait le week-end, et il écoutait sa musique dès le samedi matin, et moi j'ai toujours cette image en tête d'entendre cette musique-là dès que l'été est revenu. J'ai un premier souvenir d'un truc qui m'a vraiment marqué, parce que j'ai l'impression que c'était encore hier. Alors, je devais avoir 6-8 ans, je pense. Un 45 tours, une pochette verte avec 4 tronches de cake dessus, des mecs avec les cheveux longs, une pochette un peu crade avec la face B qui s'appelle la Rat Salad, et c'était Black Sabbath. Et je me souviens encore d'avoir mis donc le disque en route, et quand j'ai entendu le premier riff de fou, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette musique, quoi.
Et quand tu as été en âge d'acheter ton premier disque, est-ce que tu te souviens lequel c'était?
Alors oui, mais c'était une cassette. C'était une cassette des Guns N' Roses. C'était Use Your Illusion 2. C'était en Andorre. Je me souviens, j'avais vu la cassette en vitrine et j'avais acheté 35 francs.
Est-ce que c'est une cassette que t'as ensuite retrouvée en vinyle, ou est-ce que tu as toujours la cassette?
Ouais, je crois que ce qui est le plus triste, c'est quand même j'ai le CD, j'ai le 33 tours et j'ai la cassette de ce même album.
Et est-ce que tu te définis comme un collectionneur, toi?
Non, parce que j'achète beaucoup de disques. On va dire que je cherche pas forcément, je trouve. Moi, si je fais chez un disquaire, je vais pas vouloir trouver la perle rare et puis dépenser 50, 100, 150 euros dans un disque pour avoir le truc à un port japonais tiré à 20 exemplaires. Ça m'intéresse pas trop. Moi, je préfère, ouais, effectivement, choper un disque à 8-10 euros, même s'il doit craquer un petit peu, même s'il a peut-être des défauts, mais de se dire qu'il a vécu le truc. Mais c'est pas dans le collector. C'est-à-dire que voilà, c'est un disque d'époque qui a été passé d'une main à une autre et qui arrive ici, qui finira plus tard, quand je serai plus là. Mais voilà, ça a un côté un peu historique quelque part, mais c'est pas de la collection.
Alors c'est l'heure maintenant de conclure cette interview avec un morceau de ton choix, de ta collection. Je te laisse nous présenter ce que tu as choisi.
C'était un peu compliqué à choisir, parce que trouver un titre qui nous parle pour...
Toujours un exercice particulier, ça.
Ouais, c'est toujours se triturer la tête, et je me suis dit que c'était assez logique de présenter Spin the Black Circle, donc tourner le cercle noir de Pearl Jam, qui se trouve sur l'album Vitalogy, qui est leur troisième album, sorti en 93, si je ne me trompe pas, 94. Une espèce d'ode au vinyle, donc sur un album que j'aime beaucoup, que j'ai dû écouter 10 fois en 3 jours quand je l'ai acheté, qui fait partie de mes albums cultes. Et Spin the Black Circle, voilà, hein, c'est peut-être 2 à 3 minutes de gros rock qui envoie bien, qui est divers, qui gueule comme il faut. Et puis c'est le titre là qui rend hommage au vinyle.
C'est un très bon choix, et c'est très très intéressant pour la thématique de l'émission. Je te remercie, Johan, d'avoir joué le jeu de l'interview.
Merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.
Radio G 101.5 FM.